Voici Pierre Dumayet.
En juillet 1957, dans son émission Lecture pour tous, le journaliste Pierre Dumayet reçoit Louis-Ferdinand Céline. Première question.
Vous dites que c'est du voyage au bout de la nuit que sont venus la plupart de vos ennuis. Ennui étant ici un mot très faible. Que voulez-vous dire exactement ?
Réponse de l'écrivain maudit.
C'est-à-dire que je suis parti dans l'écriture des livres sans vouloir obtenir une notoriété quelconque. Je pensais simplement en tirer un honnête bénéfice pour me payer un petit appartement dont j'avais bien besoin à l'époque.
Mais rien ne s'est passé comme prévu.
Et puis les choses se sont développées de telle façon que la vie du médecin, d'humble médecin, est devenue impossible. Et il m'a compliqué de plus en plus la vie, si bien que j'ai été de difficulté en difficulté.
En octobre 1932, avec Voyage au bout de la nuit, le docteur Destouches fait donc son entrée en littérature. Pour le meilleur et pour le pire.
J'ai été dépouillé, dévalisé, pillé, salopé, ignominié de tous les côtés pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je trouve que tous les autres sont coupables, pas moi. Voilà comment je pense.
Voyage au bout de la nuit, un premier roman qui gronde comme un coup de tonnerre dans le ciel de la littérature française de l'entre-deux-guerres. Et depuis, à chaque génération, on entend combien ce livre a pu changer la vie de ses nombreux lecteurs.
Il m'a fortifié dans le fait que la littérature peut transformer le monde en même temps qu'elle le dit.
Je dis bien lecteur et pas lectrice, car en réalité, ce sont souvent des hommes qui tiennent ce discours sur Voyage au bout de la nuit. C'est intéressant de le souligner. Quoi qu'il en soit, pour quelle raison ce livre a-t-il chamboulé l'histoire de la littérature ? Et quelles ont été les réelles motivations de Louis-Ferdinand Céline avec ce voyage ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre.
Je m'appelle Philippe Collin. Et vous écoutez Louis-Ferdinand Céline, Le Voyage sans retour. Cinquième épisode, Le Virtuose de la colère.
Ça a débuté comme ça.
Est-ce qu'on peut aimer un écrivain en oubliant quel homme il a été à un moment et en oubliant certains de ses livres ?
C'est une discussion très profonde parce qu'elle porte sur la morale.
Un génie a des excuses, toujours.
Le plus grand écrivain du monde.
Je crois trop à l'influence de la littérature pour publier un salaud.
C'est Louis-Ferdinand Céline.
Ce qu'il a pu faire dans la vie, ça m'est égal. Il a trop de génie pour que je m'en occupe.
On est emporté par le littérateur et on est consterné par la bassesse du bonhomme.
Le récit commence par un enterrement. Nous sommes le 14 mars 1932. Ce sont les obsèques du père de Louis Destouches. Il avait 67 ans. Germaine Constant, une amie de Céline, a raconté que ce jour-là, il pleurait comme un enfant. Le père n'aura donc pas connu l'ascension sociale fulgurante de son fils unique. Le mois suivant, en avril, après 5 ans de travail acharné sur son manuscrit, Louis Destouches met un point final à son premier roman.
Eh bien, celui-là, on le retourne à son auteur.
On le retourne ? Comment ça, on le retourne ? Vous n'avez pas aimé ce livre ?
Le docteur écrivain espère être publié chez Gallimard, mais il essuie un refus du comité de lecture. Son Voyage au bout de la nuit atterrit alors aux éditions de Noël. La sortie en librairie de ce premier roman est prévu à l'automne 1932. Et le docteur Destouches s'est choisi un pseudonyme.
Vous n'écoutez pas,
je m'appelle Céline parce que c'est le nom de ma mère.
Elle s'appelait Céline. Je le croyais bien comme ça passer inaperçu. Car je me suis aperçu par la suite qu'il est très difficile de pratiquer la médecine en même temps qu'on est écrivain. Vous passez pour un médecin farceur, pour un écrivain de fantaisie, ça rend la vie très compliquée.
Louis Destouches préfère dissimuler son identité derrière le prénom de sa mère et de sa grand-mère, Céline. Son premier roman compte 625 pages, avec un titre qui claque, « Voyage au bout de la nuit ».
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932, à Elisabeth Craig. Voyager, c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force.
D'abord, de quoi ça parle ?
On suit un individu, ça c'est capital. Le mot individu est capital quand on s'intéresse à Céline.
Pascal Horry, historien et académicien.
C'est un individu dénommé Bardamu, et entre parenthèses, quand on parle de, on va dire, Céline, il faudrait sans arrêt naviguer entre Louis Destouches, le médecin, etc., l'aventurier aussi, Céline, l'écrivain, et puis Bardamu, auquel il s'identifie, d'ailleurs, avant le voyage, dans une pièce de théâtre qui s'appelle L'Église. Et ce Bardamu va être ballotté par la fatalité. Il est actif, certes, mais il est quand même très souvent activé par la déclaration de guerre de 1914, par une blessure obtenue au combat. Enfin, on sent bien que à cette occasion, Céline, il va continuer, écrit des romans, mais c'est presque toujours un roman autobiographique.
On est puceau de l'horreur, comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur, en quittant la place Clichy ?
Sa description de la guerre de 14, sa description de ce qu'on peut appeler le colonialisme occidental en Afrique, sa description des États-Unis, tout ça va frapper les contemporains, mais bien entendu, le critère, c'est le style. C'est le style. Et ce n'est pas encore le style qui s'impose à partir de Mort à crédit, le deuxième roman de Céline, avec les fameux trois points, etc. C'est un style d'une force, souvent d'une violence impressionnante, qui sera d'ailleurs salué comme tel, à gauche comme à droite, hein, par Bernanos comme par Paul Nizan, avec les réserves chez Bernanos comme chez Paul Nizan qu'on peut imaginer.
Paul Nizan, sur le voyage au bout de la nuit, dans l'Humanité, 9 décembre 1932. Cet énorme roman est une œuvre considérable, d'une force et d'une ampleur, à laquelle ne nous habituent pas les nains si bien frisés de la littérature bourgeoise.
Ça, c'est le communiste qui parle. À ce moment-là, Nizan, il faut le dire, on l'a oublié ensuite, est le grand intellectuel communiste. Et un peu plus loin, c'est en effet encore le communiste qui parle, car, et c'est ça qui est remarquable chez Nizan, c'est qu'il y a déjà les réserves. Céline, dit Nizan, n'est pas parmi nous. Impossible d'accepter sa profonde anarchie. Pas forcément anarchisme, hein, mais je crois que c'est bien choisi. Anarchie. Son mépris, sa répulsion générale, qui n'accepte pas le prolétariat. C'est tout à fait ça.
Voyage au bout de la nuit est un roman picaresque. Ce n'est pas un roman révolutionnaire, mais un roman des gueux.
C'est tout à fait ça. Donc il a tout compris, et il a d'autant plus tout compris que l'article se termine par « Nous verrons bien où ira cet homme qui n'est dupe de rien ». C'est assez remarquable comme texte.
Le 9 décembre 1932, dans l'Humanité donc, l'écrivain Paul Nizan pressent en effet que Louis-Ferdinand Céline dissimule autre chose en lui. Mais pour l'instant, revenons au roman.
Vous désirez, monsieur ?
Auriez-vous, mademoiselle, un nouveau livre intéressant ?
Certainement, monsieur.
Comment Voyage au bout de la nuit est accueilli par les lecteurs ?
C'est un coup de tonnerre dans la littérature française. C'est un roman qui peut vraiment changer la vie quand on le lit très jeune.
Régis Tétamanzi, professeur de littérature.
Alors, c'est pas mon cas, hein. Moi je l'ai lu beaucoup plus tard, mais il y a plein de lecteurs qui l'ont lu à 15-16 ans et qui ont été littéralement estomaqués par ce texte. Alors par sa puissance, je dirais, littéraire, à proprement parler littéraire, c'est l'émergence d'une voix spécifique sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, et aussi l'émergence d'une vision du monde spécifique, marquée certes par la noirceur, mais en même temps, et vraiment dans le même mouvement, par un comique permanent. Mais par ailleurs, Voyage au bout de la nuit, c'est un roman, si j'ose dire, polyvalent. C'est un roman d'aventure, c'est un roman policier, c'est un roman militaire, c'est un roman médical, c'est un roman des bas-fonds, qui s'inscrit dans toute une tradition, et ainsi de suite. C'est un roman picaresque, c'est un roman philosophique, c'est un roman de mœurs. Donc vous voyez, il y a de quoi faire pour des tas de lecteurs qui peuvent y trouver quelque chose. Voilà. S'il dépasse effectivement ce pessimisme fondamental qui est présent, la vérité de ce monde, c'est la mort, il faut choisir mourir ou mentir, comme il le dit à un moment. Mais en même temps, et encore une fois, ce pessimisme, il est constamment combattu par des formules comiques époustouflantes, qui font que, autant le roman est sombre dans son atmosphère générale, autant il est allègre et joyeux parfois dans sa forme et dans son écriture.
Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi ? Perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleurs, comploteurs, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermés sur la terre, comme dans un cabanon, pour y tout détruire, Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant leur rage, ce que les chiens ne font pas, 100 000 fois plus enragé que 1 000 chiens et tellement plus vicieux, nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique.
On entend régulièrement qu'avec Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline aurait inventé une langue. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Alors, c'est un point très important. Alors, ça demande une réponse un peu circonstanciée, là, pour le coup. C'est un roman qui, quasiment pour la première fois, est raconté du point de vue des dominés. C'est-à-dire que la langue utilisée par Céline, ce registre oralisé, oral populaire, qui est maintenu du début à la fin du roman, c'est tout à fait nouveau à l'époque. Au XIXe siècle, par exemple, les grands romanciers, Victor Hugo, Flaubert, Zola, faisaient parler des gens du peuple, ceux qui n'avaient pas la parole, normalement, et ils les faisaient parler, c'était le côté progressiste, humaniste, de tous ces écrivains, ils les faisaient parler dans leur langue, en leur prêtant les tours populaires, l'argot, pensez à l'argot chez Victor Hugo, par exemple. Oui, mais lorsque le narrateur reprenait la parole dans ses romans, le narrateur, lui, réintégrait la langue de la bourgeoisie, de la domination. Avec Céline, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que Céline parle à peu près, enfin, le narrateur des romans de Céline parle à peu près comme ses personnages. Et c'est quasiment la première fois que ça arrive. C'est un geste esthétique, c'est aussi, bien entendu, un geste politique. C'est se placer du côté des laissés pour compte, de ceux dont la mort n'intéresse personne, comme il le dit à un autre moment. Et c'est ça, à mon avis, qui a choqué à l'époque, mais qui rend aussi ce roman incroyablement vivant.
Est-ce que vous dites qu'il est le premier à le faire ?
Il est le premier à le faire sous cette forme-là. Par exemple, dans les admirations de Céline, vous avez par exemple Barbus.
Or, Henri Barbus.
Henri Barbus, bien sûr, grand écrivain de la guerre de 14, le feu pris Goncourt pendant la guerre. Donc Barbus fait parler les poilus comme parle un homme du peuple.
Toi qui écris, si tu parles des Truffions, tu les feras parler comme ils parlent, ou bien t'arrangeras ça.
Mais Barbus, quand on regarde son œuvre, et même dans Le Feu, quand lui reprend la parole, non. Il est dans la lignée Zola, Victor Hugo, etc. Bon, Charles Ferdinand Ramu, autre grand écrivain suisse, très très célèbre en Suisse, un peu moins connu chez nous, malheureusement. Ramu, c'est la même chose. Il y a des textes de Ramu qui ont effectivement été critiqués parce que le narrateur parle la langue d'en bas, mais si on regarde l'ensemble de l'œuvre de Ramu, ça ne tient pas. Il retrouve assez spontanément ensuite des habitudes qui consistent à utiliser le français soutenu. Il n'a pas assumé jusqu'au bout cet engagement linguistique, si j'ose dire, ce choix d'un registre de langue et de le maintenir surtout sur toute la totalité d'un roman et d'une œuvre. Ce que Céline lui a fait. Et il est le premier à avoir fait ça vraiment en français.
Tu m'en lis un bout ? que t'écris ?
Oh, aujourd'hui, j'ai rien fait. Rien de bon.
Ah, si, attends. Quelque chose que j'aime bien.
La grande défaite, en tout, c'est d'oublier. Et surtout ce qui vous a fait crever. Et de crever sans comprendre jamais jusqu'à quel point les hommes sont vaches. Quand on sera au bord du trou, faudra pas faire les malins, nous autres. Mais faudra pas oublier non plus. Faudra raconter tout, sans changer un mot, de ce qu'on a vu de plus vicieux chez les hommes. Et puis, poser sa chic. Et puis, descendre. Ça suffit comme boulot, pour une vie tout entière.
Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Louis Powells, 1959.
Alors, des histoires, il y en a plein à la rue, n'est-ce pas ? J'en vois partout des histoires. Hein. Plein les commissariats, plein les correctionnels, plein votre vie. Tout le monde a une histoire, n'est-ce pas ? Et mille histoires. Un style, il y en a un, deux, trois par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas ? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent « je vois, tu, etc. » C'est pas intéressant.
Dès son entrée en littérature, Louis-Ferdinand Céline impose un style. Cela dit, ce premier roman choque pour d'autres raisons.
Cette lucidité atroce sur le monde, sur la guerre, sur les mensonges de l'armée, de l'idéal patriotique, il démolit l'armée française, il démolit le colonialisme, il décrit le monde industriel qu'il voit à New York. Donc c'est une entreprise par synthèse de démolition. Bon.
Frédéric Vitoux, académicien et biographe de Louis-Ferdinand Céline.
Et surtout, il y a un ton qu'on n'avait jamais vu dans la littérature française. C'est-à-dire, pas encore le ton complètement morcelé, éclaté des livres qui vont suivre, mais déjà quand même avec une voix prenante, qui est la voix de Céline, qui parle, qui mêle à son roman beaucoup d'aphorismes terribles. Il y a une sorte d'urgence, de précipitation, d'émotion intense par l'apparence du parler d'un homme qui vous parle et qui ne respecte aucune des règles, je dirais, de la rhétorique littéraire.
Louis-Ferdinand Céline, dans Voyage au bout de la nuit, 1932. Du chagrin, enfin, lui était venu tout au bout des mots. Elle n'avait pas l'air de savoir qu'en faire du chagrin. Elle essayait de se le moucher, mais il lui revenait, son chagrin, dans la gorge, des larmes avec, et elle recommençait. Elle s'en mettait partout, et comme ça, elle arrivait à être encore plus sale que d'habitude, et elle s'en étonnait. Elle était arrivée au bout d'elle-même, à force de pleurer, et les bras lui remontaient, et elle en restait bien ahurie devant moi. Elle revenait quand même encore un bon coup en arrière dans son chagrin, et puis elle se redécidait à repartir, en sanglotant.
Alors ça surprend énormément. Et curieusement, ceux qui vont être le plus sensibles à ça, c'est pas tellement les critiques bien-pensants, les écrivains installés, mais c'est plutôt les écrivains marginaux, qu'ils soient de droite ou de gauche. Quelqu'un qui prend fait et cause pour Céline, c'est Trotsky, par exemple. Trotsky écrit des pages incroyables sur Voyage au bout de la nuit, quoi. C'est aussi les anarchistes de gauche qui défendent Céline, parce que ils voient, la gauche peut-être voit en Céline un démolisseur de la société pour une révolution à venir, ça c'est possible. Ils croient qu'il est l'un des leurs. Les gens de droite voient une sorte d'individualité exceptionnelle qui trouve un ton nouveau, même s'il démolit l'armée française, on s'en fiche, mais c'est quand même un ton nouveau. Bref, il rallie à lui, au fond, tous les esprits libres de la littérature.
Et parmi les premiers soutiens de Céline, il y a Robert de Noël, bien sûr. Son éditeur, persuadé dès le départ de tenir entre ses mains un chef-d'œuvre. Au point que Robert de Noël espère bien décrocher un prix littéraire. Et pas n'importe lequel.
Pour décerner le prix Goncourt, il y a une première réunion du jury qui se tient le 30 novembre 1932.
Émile Bramy, écrivain et biographe de Louis-Ferdinand Céline.
On vote. Et à une voix de majorité, le prix est décerné à Céline. Et les supporters de Céline, les trois grands supporters de Céline qui sont dans le prix, c'est Daudet, Jean Agelbert et Descaves. Les trois disent, puisque on a déjà voté, puisque le prix est acquis à Céline, on va faire la déclaration tout de suite. Rogny Aîné, qui est donc secrétaire du prix, dit non, par respect pour la presse, on va attendre un peu et on fera la déclaration à la semaine suivante. Donc le 7 décembre, il y a de nouveau une réunion du jury et à la surprise générale, Rogny Aîné, qui a une double voix, vote contre. Et donc finalement, c'est les loups de Maselyne qui vont obtenir le prix Goncourt.
Guy Maselyne, pouvez-vous nous raconter les circonstances qui ont entouré l'attribution du prix Goncourt aux loups?
Guy Maselyne, sur France Culture, 1968.
Je ne peux pas tout vous raconter. Je ne peux vous raconter que ce qui est arrivé pour lauréat. J'étais en train de travailler, j'étais en train d'écrire, quand je reçois un coup de téléphone. Et à ce moment-là, je voyais très souvent Maurice Bourdet, qui était à la radio à l'époque. Et il me dit, Maselyne, vous avez le Goncourt. Je dois vous dire que je ne m'y attendais pas.
Alors, ce qui s'est passé, nul ne le sait. Alors, vraisemblablement, c'est une manœuvre de Gaston Gallimard, puisque Maselyne publiait chez lui, en blanche, et donc on peut supposer qu'il est arrivé à retourner le jury. Donc ça a entraîné des répercussions très violentes, puisque par exemple, il y a eu des démissions.
Le lendemain, quand les résultats du prix ont été dans les journaux, j'ouvre le journal et je vois prix Goncourt, moi, etc., Céline éliminée, des caves part en claquant la porte.
Et ça a été une énorme déconvenue pour Céline, parce que Céline savait qu'il l'avait. Et donc, quand il se rend le 7 décembre, il est persuadé que c'est lui qui va avoir le prix, et donc c'est quelque chose de terrible pour lui.
Il aura le Renaudot, finalement.
Il aura le Renaudot, mais c'est un lot de consolation, de son point de vue.
Comment est-ce qu'il vit cette désillusion?
Très mal. Il vit ça très très mal parce que, enfin bon, encore une fois, l'approche de Céline est souvent une approche intéressée. C'est quelqu'un qui a un rapport avec l'argent extrêmement compliqué. Et donc, il pense que le prix Goncourt, c'est donc un prix très important, c'est celui qui fait vendre des livres. Et donc, c'est quelque chose de terrible pour lui.
Mesdames, messieurs, au nom de notre académie, nous décernons notre grand prix.
Pour être sincère, pour être franc,
Guy Maselyne,
je crois que j'aurais dû avoir le Fémina et Céline Le Goncourt. Tout aurait été tranquille, on ne parlerait plus de Céline. Du tout.
Vous croyez?
Oh, il me semble. Du tout au moins comme ça, non. On en parlerait. Au point de vue écrivain, mais au point de vue anecdotique, il me semble que je lui ai fait beaucoup d'amis.
En tout cas, vous ne seriez pas associé pour toujours à Céline, malgré vous.
Voilà. Mais je me demande jusque à quand.
Encore pour un long moment, sans doute. Pour résumer, Voyage au bout de la nuit est une effraction dans la littérature française. En 1932, Louis-Ferdinand Céline surgit de nulle part, avec un style façonné pour faire vivre des émotions à ses lecteurs. Céline n'est pas là pour raconter, mais pour faire ressentir. Par ailleurs, c'est l'histoire d'un homme qui lui ressemble, Bardamu, revenu brisé de la Grande Guerre. Et c'est encore Guy Maselyne qui en parle le mieux.
Céline est un très grand écrivain, mais c'est un soldat qui n'a pas été démobilisé. Il est entré dans la vie civile avec sa protestation de poilu. Car en fait, la guerre de 14, tout de même, avait libéré les écluses du langage. C'est dans la fréquentation de la mort, c'est dans l'horreur de la guerre que le mot, la parole exprimée, l'humeur qui ne pouvait pas s'exprimer autrement. On ne pouvait pas tirer des coups de feu sur les officiers ou sur les gens qui vous emprisonnaient, mais on pouvait parler. Et c'est le langage des soldats qui avaient respiré, qui avaient humé, qui avaient appris Céline, qui l'a rendu magnifiquement dans ce livre.
En 1958, 25 ans après la sortie du Voyage au bout de la nuit, le critique d'art André Parino questionne Louis-Ferdinand Céline sur sa manière si particulière d'écrire.
Vous avez quand même conscience d'avoir inventé quelque chose. Vous avez réussi à communiquer dans le langage écrit l'émotion
du langage parlé. Oui, mais ceci ne se fait qu'au prix d'un abominable effort, parce que la feuille de papier n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie. Socrate disait que le langage écrit était toujours mauvais, que le langage parlé seul avait de la valeur. Il y avait du vrai là-dedans. Mais moi, je suis plus fort que Socrate, j'essaie de faire passer le langage parlé dans l'écrit.
Avec Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline a inventé quelque chose, c'est certain. Mais avait-il un but ?
Alors, de mon point de vue, c'est le premier roman d'un homme qui a un certain âge, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu. Céline est né en 94, donc il a 38 ans au moment de la publication de Voyage au bout de la nuit.
L'écrivain Émile Bramy.
Et c'est un roman qui a un projet. C'est-à-dire que Céline veut, lorsque le livre est publié, il veut gagner de l'argent. C'est quelque chose qu'il répète sans arrêt. Et il veut aussi acquérir une place dans le monde littéraire français.
J'ai voté pour vous.
Bravo.
Donc c'est un roman qui ferait évidemment bravo. Le bonheur de n'importe quel écrivain. Bravo. Mais en même temps, c'est un roman qui est, d'une certaine manière, fabriqué. C'est-à-dire qu'il y a un projet, il y a un but derrière ce roman. C'est pas un roman de débutant qui écrit quelque chose parce qu'il a besoin de l'écrire. Si bien que, de mon point de vue, ça n'est pas le premier roman de Céline. Le premier roman de Céline, pour moi, c'est Mort à crédit. Je peux expliquer pourquoi assez rapidement. Si vous voulez, lorsque Voyage au bout de la nuit connaît le succès qu'il a connu, eh bien, Céline a atteint ses buts. Et donc, pour Mort à crédit, il peut se permettre d'être parfaitement sincère. C'est-à-dire qu'il écrit non pas ce que, d'après lui, attend le lecteur, mais ce que lui a envie d'écrire. Enfin, je dis ça, enfin, je sais bien que ça va choquer beaucoup de monde, mais pour moi, Voyage au bout de la nuit, c'est le livre d'un débutant très doué, c'est le livre fabriqué d'un débutant très doué.
Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste. Nos pères nous valaient bien, n'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça, t'as raison. Haineux et docile, violé, volé, étripé et couillon, toujours. Il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas. Ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard que ça n'en vaut plus la peine. On est nés fidèles. On en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde et singes parlants, maux qui souffrent. On est, nous, les mignons du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il serre. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler. Faut faire bien attention si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il vous étrangle. C'est pas une vie.
Dans ce premier roman, le héros, Bardamu, est un pessimiste, ivre de colère. Alors, derrière la virtuosité du Voyage au bout de la nuit, est-ce qu'on trouve un auteur, lui aussi, en colère ?
Un homme en colère, ce serait beaucoup dire. C'est plutôt un homme qui réagit violemment à certaines situations. C'est pas vraiment de la colère. C'est quelqu'un qui, par exemple, je crois, est sincèrement en empathie avec le petit peuple. Voilà. Et qui n'aime pas le sort qu'on lui fait, cette manière de rabaisser les petites gens, le fait de les pousser à boire, l'alcoolisme, la pauvreté, voilà. Et c'est en même temps quelqu'un, parce que il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a une mode des écrivains prolétaires, assez, assez importante. Donc c'est quelqu'un qui croit connaître le peuple, qui ne connaît pas vraiment, parce que Céline, c'est un bourgeois, hein, contrairement à ce qu'il leur a raconté. Voilà. Et donc, il prend ce train en marche, qui est celui des écrivains prolétaires. Mais il y a une véritable empathie pour certains personnages. Pas pour tous, hein, mais pour certains personnages, pour les pauvres, pour les enfants. Céline aime beaucoup les enfants et est très proche d'eux, etc.
En 1932, l'ami du petit peuple avance masqué. Personne ne sait où le positionner politiquement. Est-il une sorte de communiste qui s'ignore ? Ou est-il plutôt un national-socialiste en gestation ? Céline ne se dévoile pas. Et lorsqu'éclate à Paris, la crise du 6 février 1934, à savoir une remise en cause du régime politique parlementaire par les ligues d'extrême droite.
Messieurs, ce soir, les affrontements avec la police seront durs. Il faut qu'ils soient durs si nous voulons avoir une chance de prendre l'Assemblée.
Louis-Ferdinand Céline observe la scène de loin.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Joseph Garcin, 15 février 1934. Vous êtes bien mieux à Londres. Ici, c'est l'hystérie collective. Voilà le fascisme en route. On attend l'homme à poigne, avec ou sans moustache. Les Français sont masochistes. Progrès ? Où ? Quand ? Je ne vois qu'une vieille nation ratatinée. Quelques rafistolages ici ou là. Un jour prochain, tout s'écroulera.
En 1934, Céline est perçu par la société comme un écrivain talentueux, un médecin auréolé du prix Renaudot, disons, un homme du monde. Et face à l'instauration du régime nazi en Allemagne, certains intellectuels français, dont l'historien et médecin Élie Faure, exhortent Céline à prendre position contre la montée du péril fasciste en Europe.
La correspondance très intéressante de Céline avec Élie Faure, dont il était très proche, montre bien jusqu'où Céline ne veut pas aller.
L'historien Pascal Horry.
Il faut savoir qu'il a quand même accepté, par admiration pour Barbus, le pacifisme, et qui est lui clairement compagnon de route du Parti communiste, il a accepté de signer une pétition, qui est une de ces pétitions qui sont à l'origine en février 1934 du Front populaire. Hein. Donc, Ça ne le dégoûte pas de faire un bout de chemin. C'est à peu près le maximum. Parce que, là, je viens de citer février 34, à l'automne 33, il est invité par les amis de Zola à Médan. Grosso modo, c'est une manière de dire, vous êtes parmi nous, la gauche. Alors, ce serait une gauche socialisante, d'ailleurs, beaucoup plus que communiste. Il accepte et il met les pieds dans le plat. Et il traumatise, c'est peut-être exagéré quand même, il choque. L'auditoire, qui est un auditoire, je dirais, humaniste, Ligue des droits de l'homme, etc. Et c'est vraiment pas le style de Céline, qui déjà, en 33, donc à l'automne 33, dit à quel point l'humanité, l'espèce humaine, le débecte. Donc on sent bien que oui, il a pu, à mon avis, c'est un moment d'égarement, sa signature février 34. Et dans la correspondance avec Élie Faure, on le sent reculer. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il met en avant sa qualité d'anarchiste, mais surtout pour dire « je ne vais plus signer ». Et très vite, d'ailleurs, et pour lui, ce n'est pas un problème, c'est un problème pour Élie Faure, il se met à participer à des journaux de droite.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Élie Faure, le 22 ou 23 juillet 1935. Le malheur en tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de peuple, au sens touchant où vous l'entendez. Il n'y a que des exploiteurs et des exploités, et chaque exploité ne demande qu'à devenir exploiteur. Il ne comprend pas autre chose. Le prolétariat héroïque égalitaire n'existe pas. C'est un songe creux, une faribole, d'où l'inutilité, la niaiserie absolue, écœurante de toutes ces imageries imbéciles. Le prolétaire en cotte bleue, le héros de demain et le méchant capitaliste repu à chaîne d'or. Ils sont aussi fumiers l'un que l'autre. Le prolétaire est un bourgeois qui n'a pas réussi. Rien de plus, rien de moins.
De leur côté, les communistes français, eux, restent persuadés que Louis-Ferdinand Céline pourrait bien les rejoindre en tant que porte-voix des exploités. Et dans ce contexte de front populaire contre l'extrême droite nationaliste, les communistes ont donc mis au point une stratégie.
L'international communiste, autrement dit Joseph Staline, modifie radicalement sa position à l'égard du fascisme allemand qui paraît désormais bien implanté. Ce qui entraîne une stratégie de front uni antifasciste qui s'appelle clairement le Front populaire. Le Front populaire n'est possible que parce que Joseph Staline change complètement entre 32 et 34, puisque la bascule a lieu en 34. Et à partir de ce moment-là, la main tendue, formule qui vient de Maurice Thorez, 1936, va se tendre de la part des communistes vers les catholiques, stupéfaction de Mauriac, vers les radicaux, les démocrates libéraux, voire l'extrême droite. Et à ce moment-là, vous avez Jacques Duclos, qui n'est pas n'importe qui est le numéro 2, entre guillemets, du Parti communiste, qui est très proche de Moscou, c'est un euphémisme, qui est chargé de tendre la main à Céline, fin 1935, en disant qu'après tout, Céline pourrait être parmi nous. Il faut évidemment que Céline fasse quelques efforts. Mais pour le Parti communiste, non, il peut être parmi nous. Donc c'est important de le dire rétroactivement.
Céline ne saisit pas la main tendue par les communistes. Et il choisit plutôt de s'éloigner des actualités. La presse l'oublie et il se fait discret. Mais les ventes du voyage au bout de la nuit ne faiblissent pas. Plus de 700 exemplaires vendus par semaine tout au long de l'année 1934.
Nous sommes premiers dans les ventes, devant le Goncourt et devant le Féminin. Et la version américaine a déjà été tirée à 150 000 exemplaires. Il faut savoir compter parfois.
Et devant ce succès, Robert de Noël a décidé, avec son sens du commerce, d'éditer un ancien texte de son écrivain fétiche. Une pièce de théâtre, écrite en 1926, intitulée « L'Église » et souvenez-vous, on en a déjà parlé dans l'épisode précédent.
D'abord, il faut dire que c'est pratiquement le premier texte littéraire du futur Céline, parce que le premier texte littéraire, ce n'est pas le voyage. C'est grâce au succès du voyage qu'il réussit enfin à faire publier par De Noël, son cher éditeur, l'Église. Il a essayé en 1927 auprès de Gallimard. Donc sa première tentative auprès de Gallimard, c'est pas pour le voyage, c'est pour l'Église. L'Église est une pièce de théâtre, ce qui peut surprendre, même si on se rend compte que ensuite Céline sera très tentée par le théâtre, avec des résultats généralement assez désastreux. D'autre part, c'est le premier grand texte antisémite de Céline, ce qui reconfigure le discours consistant à dire « oui, il s'est radicalisé un peu, mais pas avant Bagatelle pour un massacre 36 ». Donc ça, c'est 26-27, 10 ans avant. Et on ne peut pas nier, on ne peut pas nier la dimension antisémite de cette pièce. L'Église, c'est Bardamu, donc le nom apparaît avant le voyage, dans cette pièce de théâtre. C'est Bardamu au service de la Société des Nations, ce qui a été, on est toujours dans l'autobiographie, hein, tout simplement, ce qui a été le cas de Céline à la fin des années 20, en relation avec un personnage extraordinaire qui est Ludwig Reichmann, qui est son supérieur hiérarchique à Genève, Société des Nations. Et il y reste, grosso modo, 3-4 ans. Hein. Reichmann, c'est tout simplement le co-créateur de l'OMS, mais à l'époque de Céline, ça s'appelle la section d'hygiène de la SDN. Et d'autre part, ce sera, après la Seconde Guerre mondiale, le créateur de l'UNICEF. Donc quand on parle de Reichmann, c'est pas un petit pantin, ça. Sauf qu'il est pantinisé par Céline, sous le nom de Judenzweck, assisté par Mosaïque et par Moïse. Et il y a un déchaînement d'antisémitisme, et on a l'impression qu'il se lâche, quoi. Il ne peut pas s'arrêter. Et on est dans les années 20, on n'est pas dans les années 30. Il n'y a pas la crise de 29, blablabla. Hein. C'est Céline tout pur.
Oui, Ferdinand Céline dans l'Église, écrit en 1926, publié en 1933. Un petit homme habillé en juif polonais, long cache poussière noire, petite casquette, lunettes épaisses, nez extrêmement crochu. C'est le directeur du service des compromis, Judenzweck.
Avec quelques milliers d'exemplaires vendus, cette pièce de théâtre de Céline passe plutôt inaperçue. Mais sachez qu'en 1933, certains journalistes, comme Jean Prévost dans Notre Temps, repèrent déjà l'antisémitisme latent de Louis-Ferdinand Céline. Alors, question importante, où en est-on de l'antisémitisme en France en 1933 ? Autrement dit, quand Louis-Ferdinand Céline surgit sur la scène littéraire et médiatique.
On peut dire que l'antisémitisme, il a plus vraiment la cote du point de vue politique, du point de vue littéraire. Il n'y a plus de Drumont dans la France de 1933. Il n'y a pas de mouvement antisémite, il n'y a presque rien, c'est groupusculaire.
L'historien Laurent Joly.
Il y a juste un journal qui a tenté en 1932 de faire une première campagne antisémite d'envergure qui s'appelait l'Ami du Peuple, qui était dirigé par un dénommé François Coty, qui était un industriel qui voulait soutenir le fascisme français et qui s'était entouré d'activistes antisémites. L'Ami du Peuple, c'était un million de tirages, c'était des centaines de milliers de lecteurs. Et il avait fait une campagne contre les financiers qui mènent le monde. Voilà. Donc on a cet épisode-là d'antisémitisme en 1932. Mais à part ça, l'antisémitisme n'a plus vraiment d'audience politiquement, même s'il reste de l'antisémitisme dans la société française. Mais il est décoté depuis la Première Guerre mondiale parce qu'il y a eu l'Union sacrée et que les antisémites passent pour des gens qui sont diviseurs. Et en plus, après 1933, durant les premières années, les antisémites vont passer pour des gens qui imitent l'ennemi allemand. Donc vous voyez que c'est pas vraiment ce qui permet, c'est pas porteur, en résumé.
À l'époque, Louis-Ferdinand Céline se tient à distance de la vie politique française et européenne. Obsédé par l'écriture de son nouveau roman, intitulé « Mort à crédit », l'écrivain s'isole dans le travail. Et par ailleurs, il demeure médecin.
Ça avance plus. Et quand on n'avance plus, on rabâche, on s'étale.
Donc ça que je t'entendais soupirer.
Alors entre 1932 et 1936, il travaille comme médecin au dispensaire de Clichy, en banlieue parisienne.
Régis Tétamanzi, professeur de littérature.
Il a une vie sentimentale agitée. Elisabeth Craig, la personne à qui est dédiée Voyage au bout de la nuit, l'impératrice, c'est son surnom, danseuse américaine qui le fascinait, qui a été certainement un des grands amours de sa vie, le quitte en 1933-34. Pour repartir aux États-Unis, voilà. Et puis surtout, alors il travaille à ce grand triptyque qui s'appelle Enfance, Guerre, Londres, dont une partie des manuscrits ont été retrouvés récemment.
C'est le bordel. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?
Qui lui prend énormément de temps et qui va petit à petit se simplifier. Il va se rendre compte que tout ça est trop compliqué à mener de front, qu'il faut se concentrer sur Mort et Crédit, qui va lui prendre l'essentiel de son temps. Voilà. On se demande d'ailleurs comment il faisait, parce que vraiment, avec son travail au dispensaire, ses voyages un peu partout en Europe, et puis ses masses absolument hallucinantes de manuscrits, bon, c'est un graphomane, Céline.
Quel est votre sentiment le plus familier ? La haine, le mépris, le dégoût, l'amour, l'amitié, enfin, quoi ?
Louis-Ferdinand Céline, au micro de Louis Powells, 1959.
Le travail. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas ? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode, n'est-ce pas ? Moi, je n'ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Vous comprenez ? Le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas ? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, dis-donc, je t'en prie. Ah, encore une, j'en veux une, mais on en a une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie.
En mai 1969, le journaliste Michel Pollack se promène passage Choiseul à Paris, où il cherche à offrir gratis au Badaud un roman de Louis-Ferdinand Céline.
Monsieur, je vous donne un Céline gratuitement, vous le voulez ?
Pourquoi pas, monsieur ?
Vous le connaissez ? Vous avez lu déjà ?
Oh, je les ai tous lus, ces Céline.
Tous ?
Ah oui ? Tous, oui, parce que je suis un vieux littérateur et je les ai tous lus.
Ah, vous aimez ?
Oh, j'aime beaucoup Céline.
Oui, lequel ?
Et d'ailleurs, je me rappelle qu'il y a notamment un qui se passe dans ce passage.
Voilà.
Et très exactement avec le Palais Royal tout à côté et ainsi de suite.
C'est ça, c'est Mort à crédit.
Mort à crédit, oui. Très bien.
C'est pour ça qu'on est ici.
Mort à crédit, c'est donc le deuxième roman de Céline. 700 pages, un pavé, sorti en librairie le 12 mai 1936. En quelques mots, de quoi s'agit-il ?
Alors, le plus simple, c'est peut-être de dire que ça se présente, en tout cas, comme un roman de formation ou d'éducation. Je prends le mot dans le sens qu'il a dans la culture européenne, avec une tradition, en Allemagne, par exemple, avec Goethe, en France, avec Flaubert ou Stendhal. Bon.
Régis Tétamanzi.
Et avec cette différence quand même que ce roman de formation déroge à la philosophie de ce genre littéraire, qui est une philosophie au fond de conformation. En fait, le roman d'éducation, c'est un roman qui vise à assurer à un jeune homme qu'on peut prendre dans l'enfance et accompagner jusqu'à quasiment au seuil de l'âge adulte, ça vise au fond à lui assurer une intégration harmonieuse, culturelle, professionnelle, sentimentale, dans la société de son temps. Donc on a souvent dit que le roman de formation, c'était un roman de conformation, en réalité. Alors avec Mort à crédit, c'est plutôt un roman de déformation, puisque l'image de la famille dans Mort à crédit, par exemple, c'est encore pire que dans Voyage, d'autant que là, il s'agit de la famille de Céline lui-même. Et en plus, dans le roman de formation, il y a des étapes sexuelles, professionnelles, avec des mentors Bon, là, dans Mort à crédit, les mentors sont pires les uns que les autres. Hein. Soit c'est des farfelus dangereux, comme Courcial des Pérères, soit ce sont des crapules, comme les différents commerçants du petit monde parisien du centre de Paris. Enfin, voilà, tout ça est très peu ragoûtant. Ça a fait beaucoup pour éloigner les lecteurs, d'autant que, il faut peut-être le rappeler, hein, le roman est paru en 1936 avec des coupes pour les passages les plus pornographiques, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de Noël a pris sur lui de couper. Et donc, quand vous avez une édition de 1936, vous avez des blancs qui n'ont été rétablis que bien des années plus tard.
Après l'immense succès du Voyage, comment est reçu ce deuxième roman de Louis-Ferdinand Céline ?
Mais pas très bien. Pas très bien. Hein. Il avait mis sur la bande publicitaire du roman une citation de Jean-Sébastien Bach, ce qui montre quand même hein, le niveau où il entendait se situer. « Je me suis énormément appliqué à cet ouvrage. Celui qui s'appliquera autant que moi fera aussi bien. » Voilà, l'ambition est là. Hein. Et donc, il a été extrêmement déçu par les comptes rendus de presse, d'autant que ceux qui l'avaient soutenu pour Voyage au bout de la nuit se sont un peu, il faut bien dire, défilés. C'était le cas, par exemple, à droite avec Léon Daudet. C'était le cas à gauche avec Lucien Descaves, par exemple, qui ont écrit des petites choses, mais voilà, c'était pas l'enthousiasme initial. Il faut aussi rappeler, parce que ça c'est quand même un peu unique dans l'histoire de la littérature à cette époque, c'est que De Noël, l'éditeur de Céline, donc, s'est fendu d'un article intitulé « Apologie de mort à crédit » qu'il a fait publier dans la presse, où il met en parallèle des extraits de critiques concernant l'Assommoir de Zola, donc 40 ans avant, et puis les extraits de presse concernant Mort à crédit en 1936, pour montrer que c'est le même dédain, le même rejet de la part des bien-pensants, des pères de la morale et des dames patronesses.
Ça ne va plus du tout. Voyez ça, autant d'un vendu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous ne vous vendez plus. Il faudra bientôt vous donner.
Mort à crédit ne jouit pas de l'accueil critique et public qui fut réservé à Voyage au bout de la nuit. C'est un échec. Et pourtant, par la suite, tous les grands amateurs de Céline ont affirmé qu'il s'agissait sans doute de son plus grand livre, indépassable, comme l'expliquait l'écrivain Alphonse Boudard en 1969.
Alors l'emmerdement avec Céline, c'est qu'il a dit « J'écris pour qu'on ne puisse plus écrire après moi ». Et on a cette impression, évidemment, quand on prend une plume. Je veux dire qu'il nous a apporter quelque chose qui ressemble à l'apport que les impressionnistes ont pu apporter en peinture. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu, après Céline, écrire. Enfin, on peut toujours dans Paris Match, ou je sais pas où, enfin dans la semaine de Lisette. Mais on ne peut plus écrire d'une certaine façon après Céline. Voilà.
Mort à crédit est dans le prolongement paradoxal du Voyage, puisque Bardamu remonte dans le temps, en quelque sorte. C'est le Bardamu d'avant la guerre, croisant des personnages hauts en couleur, entre le méprisable et l'apocalyptique. Donc, d'une certaine façon, il aggrave son cas aux yeux de ceux qui n'ont jamais aimé cette littérature vulgaire, excessive, etc. L'accueil, significativement, a été plus réservé que pour le Voyage, mais peut-être pour des raisons, comme ça arrive souvent, externes. On est en mai 36. Donc, franchement, à ce moment-là, la France a la tête ailleurs, et pas sans raison.
Nous lutterons jusqu'au bout pour la défense de nos revendications dans le calme et la dignité. Le voulez-vous, camarades ?
Oui ! Pour les revendications, les pipis !
Et puis, on voit clairement qu'on n'a plus affaire à un homme, entre guillemets, de gauche, ou alors d'une gauche très particulière. Tout ça se ressent dans un accueil qui est plutôt faible, faible. Et d'ailleurs, Céline en est à la fois surpris et mécontent.
Louis-Ferdinand Céline est donc mécontent. Son orgueil est blessé. Et cette avanie nourrit sa paranoïa au cœur d'une France en train de se fracturer, comme nous l'explique l'historien Laurent Joly.
Premier élément de contexte, c'est qu'il y a la crise économique qui s'abat sur la France. Alors la France, elle a été touchée à retardement par le krach de 1929, donc c'est vraiment en 1931-32 que la crise économique commence, donc ça c'est un premier élément. Et puis, il y a une crise politique qui va suivre cette crise économique et qui s'accompagne de scandales. Alors, il y a des scandales politico-financiers, notamment un met en scène Stavisky. Donc, Stavisky, qui est d'origine roumaine, qui est juif, mais il n'y a pas tant d'attaques antisémites que ça contre Stavisky. Le vrai tournant, c'est le Front Populaire. C'est la campagne électorale pour le Front Populaire, cette alliance électorale entre les communistes, les socialistes et les radicaux, dirigée par un socialiste, Léon Blum.
Archives Pathé-Gaumont, 1936.
Monsieur Léon Blum est appelé par Monsieur Albert Lebrun, qui le charge de former le nouveau ministère.
Vous vous rendez compte, Blum, un juif ?
Un juif, oui. Pauvre France.
Tout ça réactive très fortement l'antisémitisme qui dorénavant se situe vraiment à droite et surtout à l'extrême droite du champ politique.
Est-ce qu'on sait, Laurent Joly, comment réagit Louis-Ferdinand Céline en 1936 à l'élection du Front Populaire ?
Ce que j'ai pu en lire, c'est qu'il est révulsé, il est vraiment révulsé. Léon Blum, c'est tout ce qu'il déteste. C'est la démocratie, c'est des idéaux humanistes, et il est vraiment totalement réfractaire à ça. Et 1936 est clairement l'année du basculement politique chez Céline.
En 1936, les critiques contre Mort à Crédit sont rudes. On reproche à Céline un immense pastiche du voyage au bout de la nuit, comme une pâle copie de lui-même.
Si bien que, là encore, il est très très malheureux parce que, comparé au voyage au bout de la nuit, Mort à Crédit, c'est un demi-échec. Public, en tout cas.
Émile Bramy.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, devant ce demi-échec, il s'arrête d'écrire le roman qu'il a en cours et qui est casse-pipe, pour passer aux fameux pamphlets antisémites qui vont avoir la résonance que l'on sait.
Lettre de Louis-Ferdinand Céline à John Marx, le 10 septembre 1937. Vous êtes au courant de la situation en France, stupidement catastrophique. Je vais sans doute publier un court livre à ce sujet, un entracte, très prochainement, chez De Noël. Bagatelle pour un massacre, un petit mélange, 100 pages.
En conclusion de ce cinquième épisode, retenez qu'en 1932, Louis-Ferdinand Céline fait une entrée fracassante dans l'histoire de la littérature française. Et avec « Voyage au bout de la nuit », le docteur Destouches devient riche et célèbre. Après avoir digéré sa frustration d'avoir vu le prix Goncourt lui échapper, l'auteur se remet à l'ouvrage pendant 3 ans. Car il veut offrir à ses lecteurs ce qu'il a sans doute considéré comme son véritable premier livre, Mort à Crédit. Mais devant l'échec critique et commercial de ce deuxième roman, Céline cherche des coupables et laisse courir sa haine. Les coutures craquent.
Louis-Ferdinand Céline, dans Bagatelle pour un massacre, 1937. Je préférerais 12 Hitler plutôt qu'un Blum omnipotent. Hitler encore, je pourrais le comprendre, tandis que Blum, c'est inutile. Ça sera toujours le pire ennemi, la haine à mort, absolue. Lui et toute sa clique d'Abyssin, dans la même brouette, ses girons, son consistoire.
Comment Louis-Ferdinand Céline est devenu le mage noir des antisémites et le propagandiste des théories hitlériennes, c'est l'horizon du prochain épisode. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Charles Berling et Bérangère Varluzel. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Le cheval de Troie. Louis-Ferdinand Céline, Le voyage sans retour, est un podcast original de France Inter.